J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'une femme qui accompagne sa petite fille de 3 ans à l'école et pour tout vous dire, ce n'est pas le meilleur matin du monde. Elle s'est levée trop tard, angoissée, le ventre noué. Elle a tout de suite pensé à la tête de sa boss, sa N+1 comme on dit. On ne l'a jamais aussi bien dit N+1 avec laquelle elle a rendez-vous. Impossible d'avaler quoi que ce soit, même son café ce matin n'a pas l'effet escompté. Elle a même cette étrange pensée, quand le café n'a pas l'effet escompté, c'est que nos jours sont comptés. Bref, c'est pas la grande forme. Pas le matin où tu te lèves avec ta parfaite morning routine, yoga, étirement et petit bol healthy. Non, plutôt le sale matin avec cette phrase qui l'accueille au réveil. Cette réunion, ça va mal se passer. Et puis sa mère, au téléphone hier, elle n'avait pas une bonne voix. Elle se sent coupable de ne pas assez s'occuper de sa mère, comme elle s'en veut également d'accompagner sa fille à l'école en retard. La tête lourde de pensées moroses, au lieu de profiter de ce qui est précieux, au lieu de vivre pleinement la petite main de sa fille dans la sienne, au lieu de savoir ce qui compte et de le privilégier. Et voilà, la sonnerie de l'école qui retentit. Elle lui fait un bisou rapide et lui dit de courir, et c'est alors qu'elle s'en aperçoit. Elle a bien son cartable sur son dos, ça c'est bon, mais son pantalon, c'est pas possible son pantalon. Comment ni elle ni sa fille ne s'en sont rendues compte? Mais c'est ton pantalon de pyjama! Elle a envie de pleurer. Sa fille, soudainement saisie, suit les yeux de sa mère pour se découvrir en pyjama, tandis que le gardien de l'école ferme la lourde grille. C'est le silence maintenant, immobile, toutes les deux sur le trottoir, devant l'école, dans le même effroi. Et puis ça monte de très loin. Est-ce que c'est elle qui rit la première ou est-ce que c'est sa fille? Elle ne sait pas, mais c'est puissant comme un fleuve qui délivre de tout. Le fou rire les prend en même temps. Elle rit, et ça fait un bien fou. Elle pleure de rire et ça remet d'un coup toutes les pendules à l'heure. Ces larmes de rire qui fluidifient tout et qui ont le pouvoir fou, oui, comme un fou rire, de nettoyer le corps et l'âme. Mais d'où vient ce rire? Est-il une revanche de la vie sur tout ce qui l'assombrit? Et s'il était peut-être même plus qu'une revanche, le triomphe de la vie. Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir une philosophe souriante, Olivia Gazalet, autrice notamment aux éditions Seguers et en poche chez Pocket, du paradoxe du rire, ça tombe bien, et en sa compagnie, donc Olivia Gazalet, nous allons nous pencher sur l'énigme du rire et nous demander de quoi le rire nous libère.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Olivia Gazalet.
Bonjour Charles Pépin.
Eh ben merci beaucoup d'être là.
Merci de m'avoir invité.
Alors vous avez écrit plusieurs livres, notamment un livre sur le mythe de la virilité, un livre sur la philosophie, Je t'aime à la philo, mais je vous reçois aujourd'hui pour un autre livre, Le paradoxe du rire, sous-titré d'ailleurs Et si ce n'était pas toujours drôle, qui est sorti aux éditions Seguers et puis récemment chez Pocket, dans la collection Agora, très belle collection. Et je vais vous poser la question cash, directement, inspirée par cette petite narration du matin. De quoi le rire nous libère?
Le rire nous libère de beaucoup de choses. D'abord l'angoisse, la colère et le poids des interdits et des normes. Alors, commençons par l'angoisse. Ouais. C'est vrai que le rire, c'est un formidable anxiolytique. C'est un anxiolytique naturel. Parce que, en fait, quand on est en proie à une émotion négative, typiquement, aujourd'hui, on est dans une époque hyper anxiogène. En plus, ce sont des angoisses nouvelles. C'est-à-dire, c'est des peurs d'effondrement. C'est des peurs majeures. C'est le retour du tragique. C'est le retour de la guerre. C'est le péril nucléaire. C'est le péril écologique. C'est le péril fasciste. C'est le péril des pandémies. Donc, en fait, on est tout le temps dans une espèce de peur indéterminée et qui est tétanisante, paralysante. Et en fait, le rire agit comme un anxiolytique naturel parce qu'il métabolise, en fait. Il suffit que, par exemple, vous êtes dans une situation d'anxiété ou de tristesse, par exemple un enterrement, ça peut aussi marcher avec la tristesse. Et tout à coup, il y a quelque chose qui est un peu incongru, bizarre, étonnant. Et hop, toute l'émotion négative, la surcharge d'énergie psychique que contient l'émotion négative va être comme tout à coup dérivée, métabolisée dans ces secousses jouissives de l'abdomen. Ouais. Mais ce qui est génial, ce qui est absolument magique dans le rire, je trouve, c'est que ces secousses sont bienfaisantes. Donc elles font plein de vertus pour la santé. Ouais. Mais ce qu'on sait moins, c'est que quand on rit, on sécrète des hormones, les hormones du bien-être, donc ouais, la dopamine, la sérotonine, les endorphines. Donc, d'un simple point de vue chimique, on se sent mieux quand on a ri. Donc ça, c'est la première chose, je dirais, ça nous libère de l'angoisse. Mais ça nous libère aussi de la colère. La colère, et là, il y a peut-être aussi une dimension politique, c'est que le rire est un contre-pouvoir, et quand on ne supporte plus les dirigeants qui nous gouvernent, eh bien, les entendre désacralisés par les humoristes, la satire, la caricature, tout ça, ça purge le ressentiment, ça purge notre colère. Donc, ça nous fait aussi du bien, ça nous allège. Et puis, enfin, dernier point, mais il y aurait beaucoup à dire sur chacun, mais c'est que ça nous libère.
On reconnaît la professeure.
Du poids, vous savez qui vous avez invité. Ouais. Du poids des interdits et des normes. Voilà, parce que le rire est toujours quelque chose de transgressif. On transgresse toujours une norme quand on rit, que ce soit une norme du langage, une norme sociale, une norme morale, une norme logique. Et donc, c'est pesant, toutes ces normes, et de les voir subvertir, c'est toujours libérateur, c'est un exutoire.
Alors, j'ai entendu une expression intéressante dans votre bouche, c'est les secousses jouissives de l'abdomen. Oui. Et on a entendu aussi la référence à la dopamine, à la sérotonine. Donc ça, c'est une explication un peu physiologique, voire matérialiste. Et si on essaye de compléter cette première approche que vous avez donnée par une approche plus spiritualiste ou métaphysique, on pourrait dire, est-ce qu'il n'y a pas en même temps que mon abdomen est secoué comme ça physiquement, quelque chose comme un contact peut-être avec la vie au sens métaphysique? Bergson parlait par exemple d'élan vital. Est-ce que vous ne croyez pas que dans le rire, quelque part, ce n'est pas moi qui ris, je suis traversé par un rire plus grand que moi?
Ah, c'est une belle question. Traversé par un rire plus grand que moi. Donc en fait, ce serait... Vous savez, moi, ça, ce que ça m'évoque, là, c'est le rire inextinguible des divinités de l'Olympe.
Ouais.
Homère nous dit que dans l'Olympe, il y avait ce rire inextinguible des dieux qui se moque d'eux entre eux.
Ouais, et puis des hommes.
Et ils se moquent beaucoup des hommes. Et donc ça m'évoque, effectivement, il y a une dimension à la fois très individualiste dans le rire. Et il y a un effet cathartique pour soi, mais il y a aussi un effet collectif. Et c'est vrai que dans les grandes fêtes, par exemple, dans les grandes fêtes collectives, les carnavals, etc., qui sont nés en Grèce antique, qui sont poursuivis au Moyen-Âge, il y avait cette espèce de grande fusion du peuple dans le rire, dans l'hilarité. D'ailleurs, hilaritas, ça veut dire favoriser des dieux, ça veut dire béni, ça veut dire... Donc il y a quelque chose de plus grand que nous, plus grand que l'individu dans le rire, qui nous fait rejoindre la collectivité plus large.
Dans votre livre, Olivier Gazellet, donc intitulé Le paradoxe du rire, vous évoquez aussi un rire alchimiste pour dire qu'au fond, le rire produit une transformation, un peu comme si c'était une puissance qui permet à un état de devenir un autre état. Il y avait des belles pages de Anne Dufour-Mantel, par exemple, sur la douceur, où elle dit que la douceur est une puissance, ça veut dire que quand on est doux, on va pouvoir métamorphoser les affects de quelqu'un en autre chose. Est-ce que c'est pas un peu la même chose avec le rire, au fond?
Oui, le rire, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que le rire a cette vertu magique de commuer le plomb en or ou de convertir la détresse en allégresse, vous le dites comme vous voulez, mais effectivement, cette propriété magique, métaphysique, je sais pas comment on l'appelle, mais de récupérer des énergies négatives pour exulter. Et donc ça, il y a peu de mécaniques, il y a peu de phénomènes psychiques qui ont cette propriété incroyable, en fait, de transformer le négatif en positif.
Mais alors, vous avez parlé des dieux de l'Olympe qui riaient beaucoup, qui riaient d'eux-mêmes, qui riaient des hommes. Jésus, lui, pas vraiment. Vous évoquez ça dans votre livre, ça m'a beaucoup touché. Je me dis, c'est vrai que c'est bizarre, pourquoi il rit pas, Jésus? Pourtant, il est censé porter la joie, la bonne nouvelle de la résurrection. Il y a peut-être de quoi sourire, au moins.
Ben oui, en fait, le Jésus n'a jamais ri, c'est une affirmation de la doctrine chrétienne. C'est les grands-pères de l'Église qui ont théorisé la doctrine chrétienne au fil des siècles. Et qui ont installé cette idée que Jésus n'avait jamais ri, ce qui est très improbable. Parce que s'il s'est vraiment fait homme, les évangiles le montrent en train de boire, de manger, de dormir, mais jamais de rire, ni même de sourire. Donc,
c'est bizarre, alors, pourquoi ce serait diabolique ?
Alors, justement, moi j'ai une hypothèse là-dessus, c'est que les évangiles ne mentionnent jamais son rire. Ça ne veut pas dire qu'il n'ait jamais ri, mais en tout cas, ça n'est jamais mentionné. Ouais. En revanche, ce qu'on sait, c'est que On a beaucoup ri de Jésus. Les gens se sont moqués de Jésus, notamment pendant tout son procès, pendant tout son calvaire. Il a reçu des quolibets, des insultes, des crachats. Ses disciples ont été moqués. Donc en fait, le rire a pris d'emblée une connotation diabolique. C'est ouais. Le rire, c'est le rire du diable. Et d'ailleurs, dans la doctrine chrétienne, enfin dans les représentations, vous avez les seuls qui rient, ce sont le diable et les diablotins, les prostituées ouais. Et les sorcières. Tous ceux et celles qui sont traversé par le diable.
Est-ce que ce n'est pas une façon de nous inviter à ne pas nous saisir de cette liberté qui est la nôtre quand nous rions ? Au fond, quand nous rions, nous n'avons plus ni Dieu ni maître. C'est ça que ça veut dire.
Oui, bah, écoutez, pour nous, oui. Si vous... Mais en tout cas, il faut se souvenir que pour toute la vie monastique, ça a été véritablement un interdit majeur. C'est-à-dire que le rire était considéré comme quelque chose d'assimilable au péché. Il y a aussi une autre chose qu'on peut souligner.
Mais c'est peut-être que c'est sexuel aussi.
Mais voilà, c'est ça. C'est que le rire, parce que justement, il provoque ces soubresauts de l'abdomen, parce qu'il ouvre sur le continent de la jouissance, ouais. Parce qu'il se traduit par des hoquets, des halètements, etc. Il est finalement assez proche de l'acte sexuel. Donc, il a été tout aussi suspect dès les premiers âges chrétiens. Et d'ailleurs, il y avait même cette idée que moi, ce que j'ai appelé la tentation du rire, c'est-à-dire ouais. Que c'est véritablement quand un moine avait envie de rire, parce que c'est humain de rire, eh bien, c'était le diable qui venait le tenter, essayer de le faire entrer dans le péché. Mais s'il suivait la ligne dictée par Jésus, d'après la doctrine, il devait se... Et bien, aussi une autre chose, c'est que Jésus n'a pas ri, mais en revanche, il a pleuré. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que toujours dans cette même doctrine chrétienne, on va diaboliser le rire, mais on va sanctifier les larmes. Le pleurer, c'est quelque chose, au contraire, de très noble. Il y a quelque chose de divin dans les larmes.
Mais on peut pleurer de rire.
Ben absolument, on peut pleurer. Mais d'ailleurs, pleurer de rire. Alors là, c'est un péché. Je ne sais pas si c'est un péché. Mais...
Quand je vous écoute parler de cette jouissance un peu diabolique, de ces secousses orgasmiques dans le rire, ça me fait penser à cette scène dans Amadeus de Milos Forman où il y a Mozart qui rit comme ça et ce rire choque tout le monde et il rit un peu comme un lubrique au fond. Il y a un rapport comme ça entre le rire et la lubricité.
Oui, avec l'obscénité en tout cas. Ouais. Bien sûr, le rire de Mozart. Et il adorait les blagues un peu scato, l'humour un peu...
Enfin, le Mozart de Milos Forman, parce que c'est beaucoup critiqué par les connaisseurs qui disent que Mozart n'était pas comme ça.
Norbert Elias aussi reprend cette idée qu'il y avait un rire de Mozart. Donc, je ne sais pas si on peut faire confiance plus à Norbert Elias qu'à Milos Forman. Je ne sais pas. Mais lui, justement, il a étudié ce rire de Mozart en disant qu'en fait, c'était un rire qui était un rire de transgression vis-à-vis des normes de la cour. Mais c'était une façon de faire un pied de nez à son père et de se rebeller contre la tyrannie paternelle qui l'obligeait à se produire, à travailler comme un fou son piano. Voilà, et la noblesse en même temps qui l'invitait, mais qui le traitait comme un domestique. Et donc en fait, c'est ce que Norbert Elias explique dans Sociologie d'un génie, il dit, voilà, le rire de Mozart, c'est une façon de dire, bon, vous me traitez comme un domestique, moi je vais rire comme un domestique, je vais rire comme un homme du peuple.
Et ce faisant, je vais reprendre le pouvoir aussi, en m'arrachant à la norme, en m'arrachant à ce qu'on attend de moi, et finalement, en retrouvant aussi le corps qu'on voudrait ne pas voir, qu'on voudrait taire, qu'on voudrait domestiquer. Le rire, c'est aussi la revanche du corps.
Absolument, c'est la revanche du corps. Et c'est toute la grande entreprise de civilisation du rire, dont parle aussi d'ailleurs Norbert Elias, c'est bien cette idée que le rire a quelque chose d'organique, de bestial, d'incontrôlé naturellement. Et donc, il va falloir le moraliser, le domestiquer, le réguler, le codifier. Et c'est toute l'entreprise de civilisation des mœurs qu'a très bien décrite Norbert Elias.
Alors, Olivier Gazalier, on va profiter de votre présence ici, vous qui avez écrit Le paradoxe du rire, pour essayer de comprendre pourquoi on aime tant rire. Je vous propose d'écouter ce sketch, un court extrait de ce sketch de Gad Elmaleh, pour essayer d'approcher un peu cette énigme physique, comme ça, cette espèce de tension qui nous fait tellement rire.
Quand tu pars en voyage en avion, tu enregistres ton bagage, tu voyages, et quand tu arrives... La valise, tu la connais, elle est à toi, c'est toi qui l'as enregistrée, mais quand tu la vois sur le tapis roulant, t'es content. C'est quoi comment ça se passe? C'est juste qu'on t'a rendu ta valise? Non, mais t'es content, ça te fait quelque chose. Tu fais, oh putain, c'est ma valise, je la reconnais. Il y a même des couples, ils ont des techniques, j'ai vu. Il y a un mec, il se met là-bas, il dit à sa femme, mets-toi de l'autre côté, comme ça. on va baliser le terrain. Mais il n'y a rien à baliser, c'est ta balise, ils vont te la rendre, tu vois. Et de loin, ils se font des signes, ils font « Larry !» Il y en a même, ils se font un kiff, ils disent « Laisse-la tourner je... !»
Alors, Olivia Gazalé, pourquoi c'est drôle ?
Alors, c'est drôle. Bon, c'est terrible de disséquer une blague comme ça pour dire pourquoi c'est drôle. La plupart du temps, on rit quand il y a une incongruité, deux ordres de plans de réalité ou deux ordres d'idées qui se percutent, qui s'électrochoquent, alors qu'elles n'avaient pas normalement vocation à se rencontrer. Donc là, effectivement, on peut dire que le contraste entre la banalité d'une valise et la joie, l'exultation à retrouver sa valise, c'est ça l'incongruité ici dans ce sketch. Ouais. Il y a aussi une autre composante, d'après moi, c'est que on rit aussi quand il y a une espèce de, quand il y a une vérité. Et quelque chose qui est à la fois très intime, mais on touche à l'universel. Et donc là, il nous dit une vérité sur nous-mêmes, il lève un coin du voile, et donc c'est ça aussi qui est jouissif. C'est, ah oui, mais moi aussi je vis ça, donc si je le vis, et que tout à coup la complicité fait que tous les autres rient de la même chose, c'est qu'on est tous, ça nous concerne tous, et ça aussi, c'est une, ça c'est quelque chose aussi qui est... qui nous fait exulter, en fait.
Et d'ailleurs, ça triomphe un peu aujourd'hui avec les humoristes sur Insta, sur les réseaux sociaux, qui narrent une quotidienneté et qui font rire beaucoup de monde, notamment les ados, en leur montrant le monde qui est déjà le leur. C'est un peu ce que vous dites, un phénomène d'identification, de reconnaissance. On rit, en fait, de ce monde commun qui est le nôtre.
Oui, on rit parce qu'il y a... les comédie clubs, ça marche très bien en ce moment, parce qu'en fait, là, vous avez des stand-uppers donc, qui viennent et qui, en général, font de l'autodérision, parlent d'eux. Et en faisant de l'autodérision, ce qui est extraordinaire, c'est que par l'intime, il touche à quelque chose d'universel et donc immédiatement, il crée ce lien de confiance, ce lien d'empathie, qui permet après à l'humoriste d'aller sur des tas de terrains parce que justement, il a réussi à installer cette connivence, cette sympathie immédiate par l'autodérision.
Mais comment vous interprétez tout ce succès des comédie clubs, tous ces comiques partout, il y a des one-man shows partout, dans toutes les émissions de télé, vous qui avez philosophé dessus, comment vous interprétez cette espèce d'explosion comme ça ? Est-ce que c'est pas un peu triste aussi d'avoir autant besoin de se marrer ?
Si, de toute façon, ça, c'est pas la faute du rire, c'est la faute de la du monde tel qu'il est, qui est complètement absurde, complètement fou, complètement anxiogène. Et donc, oui, c'est la faute du monde si on a tant besoin de rire, c'est pas la faute du rire. Donc, comment j'explique le succès des comédie clubs, notamment par le fait que c'est une parole vraie, et ouais. Ce qu'on vient de dire, et c'est aussi une parole de proximité, c'est une parole les gens sont tous tout le temps sur leur portable, donc on est dans un monde complètement numérisé, et là c'est quelqu'un qu'on peut toucher, qui a quelques mètres, qui est comme nous. Et il y a aussi une chose qui explique le succès des comédie clubs, c'est cette parole vraie, incarnée, authentique, etc. Il y a aussi le fait que c'est des nouvelles voix, des paroles renouvelées. Et notamment, il y avait des voix qu'on n'entendait pas autrefois, en tout cas, il y a notamment les voix des femmes qui triomphent dans les comédie clubs, et les voix des minorités racisées, les minorités ethno-raciales, on les voyait très peu, et on les voit beaucoup dans les comédie clubs. Mais ils apportent d'autres thématiques, d'autres façons de rire, d'autres connivences. Et donc, c'est beaucoup, ça enrichit, je trouve, le paysage du rire.
Moi, un jour, je serai un grand artiste. Je gagnerai même un Grammy. J'aurai des sous et tellement je serai riche. J'aurai même plein d'amis. Toujours escorté par la police. Je voyagerai jour et nuit. Mon épouse sera une grande actrice. Pourquoi rêver petit? Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Moi, mon rêve, c'est d'avoir la piscine et la villa quatre façades, 3-4 chambres et puis un grand dressing et le coupé 4x4. Non, mon but n'est pas d'être richissime, juste le salaire d'un cadre. Et je finirai pas mes jours ici, dans cet appart minable. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Moi, plus tard, j'aurai une femme qui m'aime et des enfants tout plein. Tu sais bien, je suis pas très matériel. Je veux juste un petit terrain, pas besoin d'un quartier résidentiel. Je construirai de mes mains un potager, un vélo, le soleil. Et tu sais, ça me convient. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Je sais pas où je dormirai demain. Eh ben ça devrait aller. Tu sais bien, je me contente d'un rien. Moi, tant que j'ai les papiers, ce que je voudrais, c'est de manger à ma faim tous les jours de l'année. Et puis je me demande si enfin, en grand, je pourrais rêver. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement.
C'était Stromae, toujours aussi excellent avec le morceau Riez.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin. Sur France Inter.
Nous sommes toujours, nous avons le plaisir d'être avec Olivia Gazalet. Nous parlons de votre dernier livre, Le paradoxe du rire, sous-titré aussi, on va en parler, Et si ce n'était pas toujours drôle, aux éditions Segers. On fait un petit bilan d'étape. De quoi le rire nous libère? C'était un peu la première partie de l'émission. On a bien entendu, grâce à vous, que le rire nous libérait du stress, de l'angoisse de mort, du conformisme, de la norme, de l'oubli du corps aussi. On aurait pu ajouter, c'était implicite, de l'esprit de sérieux. Vous savez, ces gens qui sont. C'est bien d'être sérieux, mais on n'est pas obligé de sombrer dans l'esprit de sérieux, dans la gravité. Et le rire libère de tout ça. Mais et puis vous avez aussi évoqué, avant qu'on écoute Stromae, cette très belle idée que peut-être dans le succès actuel de tous les comédie clubs, de tous ces comiques, de tous ces one-man shows, il y a le fait que de nouvelles personnes prennent la parole, les femmes, hein, qui longtemps n'ont pas eu le droit de rire parce que ça aurait été être trop moqueur et pas assez doux. Et je rappelle, Olivia Gazalet, que vous avez aussi écrit un très beau livre, Le mythe de la virilité. Et vous avez dit aussi que des personnes qui auparavant étaient plutôt moquées dans les sketchs des dominants blancs, eh bien des racisés, des dominés, maintenant ce sont eux qui nous font rire. Et donc cette inversion, peut-être, elle explique en partie le succès. Très bien. Maintenant, abordons un peu ce qui fâche, le rire qui n'est pas drôle. Voilà. Il y a des moments où c'est pas drôle. Alors peut-être, et c'est un peu un élément central de votre travail, quand le rire n'est pas drôle, quand le rire se déploie sans humour, quand le rire blesse des gens fragiles. Et pour entrer dans cette partie de l'émission, je voudrais peut-être qu'on commence par une anecdote personnelle, un moment où un rire ne vous a pas du tout fait rire, vous, Olivia Gazalet.
Bah, je vais donner un exemple assez classique. Le sketch de Michel Leeb sur l'Africain, par exemple. Ouais. Voilà, ça me fait pas rire. Mais je préfère abandonner la catégorie drôle, pas drôle, parce que je trouve ça hyper subjectif, en réalité. On trouve ça drôle, pour autant qu'il y ait une distance et une innocuité, que ça ne nous atteigne pas personnellement. Et en général, on trouve pas ça drôle si on est intimement blessé ou si on estime que ça peut blesser une cible. Et donc, pourquoi est-ce que... Voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que le rire peut être à la fois, comme on l'a dit, une arme extraordinaire de subversion, de contestation, d'émancipation, mais ça peut être aussi une arme d'oppression, de domination, de dégradation, voire de destruction. Et pourquoi ce sketch... Moi, ne me fait pas rire. Je ne dis pas qu'il n'est pas drôle, je dis qu'il ne me fait pas rire, ouais. Mais il peut faire rire d'autres personnes. C'est que, en fait, c'est pas l'accent qui est problématique. C'est pour ça que je vous réponds ça, parce que souvent on dit oui, alors on peut plus se marrer des accents. Moi, c'est pas l'accent. Je trouve, par exemple, Gad Elmaleh, vous avez, il fait sans arrêt des accents, ça ne me pose aucun problème parce que il prend un accent, mais ça n'est pas pour dégrader ou inviter à mépriser ou voire à haïr sa cible. Alors que dans le sketch de Michel Leeb, il y a cette idée que l'Africain est bestialisé. En fait, il a des mimiques d'orang-outan, il est complètement crétin. Donc, en fait, c'est l'idée que la cible, là, est véritablement anéantie. humilié. Et c'est la différence.
On rit d'eux. Oui, on ne rit pas avec.
Bah, absolument pas. Oui, c'est ça. C'est que le rire, c'est à la fois quelque chose qui est inclusif et exclusif. On rit en général quand on partage une connivence avec quelqu'un. Donc, c'est le côté inclusif. Et on rit de quelqu'un. Et là, c'est le côté exclusif. Ça peut être parfois simplement de la taquinerie. Ça peut être aussi parfois très offensif.
Eh bien, écoutez, je voudrais qu'on raisonne à partir d'un cas concret et qu'on ait votre décryptage, Olivier Gazalet. Écoutons cet extrait de quelle époque ?
Léa, tu sais que ton père, c'est un voleur ? Parce
non.
qu'il a pris toutes les étoiles dans le ciel, il les a mises dans tes yeux. Louis, tu sais que ton père, c'est un voleur ? Voilà, c'est tout.
Vous avez le droit de sourire.
Mais pas l'obligation.
Pas l'obligation de sourire.
Votre père est un voleur, vous a-t-il dit ? Vous n'avez pas répondu ?
Oui, j'ai pas répondu parce que le problème n'est pas forcément l'attaque face à moi ou face à mon père. Et d'ailleurs, ce jeune humoriste, s'il ne l'avait pas fait, il serait sûrement pris toutes les critiques de son camp, encore une preuve de népotisme, etc. Le problème avec ça, c'est pas forcément cette attaque. Le problème, c'est que c'est pas drôle. On pardonne tout à l'humour. D'ailleurs, il fait deux autres vannes qui sont assez marrantes, un peu cheap, mais assez marrantes. Une vanne un peu plus drôle serait passée bien mieux. Et je pense que le petit émoi que cela a suscité, c'est à cause de la vulgarité de la chose. C'est pas forcément que c'est contre moi.
Alors voilà, c'était la réaction donc, de Louis Sarkozy plus tard sur BFM Télé. Et il répond, le problème, c'est que c'est pas drôle. Alors qu'est-ce qu'on dit de ça ?
Non, c'est pas le problème n'est pas que ce soit drôle ou pas, parce que ça, c'est éminemment subjectif. Il y en a que ça a fait rire. Donc, drôle et pas drôle, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est des catégories qui sont pas du tout pertinentes.
Alors, pourtant, vous parlez dans votre livre, il faut que ce soit fait avec humour. Donc ça,
oui.
Ça veut pas dire drôle.
Alors, non.
Ah ben,
non.
On y va.
En fait,
distinction conceptuelle.
Si vous voulez, mais il y a trois termes à ce moment-là,
ouais,
qu'il faut distinguer.
Allons-y.
Le rire, le comique et l'humour. Le rire, c'est une réaction organique à une cause, un stimulus. Ce stimulus,
ouais,
ça peut être le comique, qui est la cause qui va déclencher le rire. Ça n'est pas toujours le comique, parce que,
ouais,
par exemple, le rire de chatouille, ou le rire de surprise, ou le rire d'un enfant qui rit simplement en courant, ça n'est pas de l'ordre du comique. Donc, rire comique, et l'humour, c'est une des formes que peut prendre le comique. Mais à condition de remplir un certain nombre de critères.
Et dans ce cas, alors ?
Alors, dans ce cas, c'était pas vraiment de l'humour, c'était du sarcasme.
Ouais.
Ça veut pas dire que c'est pas drôle, le sarcasme aussi peut être très drôle.
Ouais.
En revanche, la différence que je fais entre l'humour et le sarcasme, c'est que l'humour a une intention pacifique, inclusive, ludique, il n'y a pas d'attaque. C'est, comme diraient les enfants, pour de faux, c'est pas sérieux, c'est de la taquinerie, ça c'est l'humour. Le sarcasme, il y a une véritable intention d'attaque derrière, de polémique. Donc, et c'est ici, ça ne veut pas dire que ça n'est pas drôle, ça veut dire simplement qu'on n'est pas tout à fait dans le registre de l'humour, parce que la vanne visait quand même à attaquer Louis Sarkozy.
Donc, mais alors, dans ce cas, il y a une distinction que vous posez par rapport à ce qui est visé. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'une distinction qui vient du cœur, du ventre, de la personne qui fait la blague ? Quel est son affect ? Quelle est sa pulsion dominante ? Est-ce que sa pulsion dominante est d'amour, on va dire, ou est-ce qu'elle est de haine ? Est-ce qu'elle est d'ouverture ou est-ce qu'elle est de fermeture ?
Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a le paramètre de qui parle ? Quelle est sa posture ? Est-ce qu'il est... Et puis, il y a aussi la question de d'où vous parlez ? Est-ce que vous avez une position de domination ? Parce qu'une blague qui est faite par un élève à un autre élève, ça n'a pas le même poids qu'une blague qui est faite par le prof ou par le patron. Et là, c'est quelque chose d'écrasant auquel vous ne pouvez pas répondre. Donc, qui parle ? Dans quelle intention ? Donc, est-ce que l'intention est ludique ou offensive ? Et troisièmement, qui est la cible ? Est-ce que cette cible est vulnérable ou non ? Là, en l'occurrence, on ne peut pas parler de vulnérabilité de la cible comme pour l'Africain ou pour les femmes ou comme les blagues grossophobes. La cible n'est pas hyper vulnérable, enfin pas à ma connaissance. Mais en revanche, l'intention, elle, à mon avis, était quand même de lui envoyer une pique. Et ce n'était pas de la taquinerie, ça voulait dire quelque chose. Il y avait véritablement quelque chose derrière. On était en plein dans le procès de son père, qui était en train d'établir des plus ou moins, des faits. Donc, il y avait une part de vrai. Et quand on ne peut pas dire,
pas facile,
c'est pour de faux.
C'est pas facile d'être le fils d'un homme politique accusé à ce point devant la justice de son pays. Vous dites, il n'est pas vulnérable. Je ne suis pas d'accord, ça c'est très discutable. D'être le fils d'un puissant, mais d'un puissant à ce point attaqué devant la justice, c'est quand même une position de vulnérabilité malgré tout.
Oui, en ce moment, effectivement, il est dans une position de vulnérabilité par rapport à ce qui se passe. Mais ce n'est pas ce que j'appelle un individu ou une catégorie vulnérable en soi. On se comprend.
J'entends bien. Si j'entends aussi ce que vous avez dit au début de l'émission sur le caractère alchimiste du rire, le rire qui métamorphose les affects. On pourrait aussi imaginer que quelqu'un qui fait une blague, il a une pulsion agressive, de dévalorisation, mais que par son humour, il va métamorphoser cette agressivité négative en lui en quelque chose qui va finalement devenir ambigu et qui peut comporter aussi une certaine bienveillance. Et est-ce que c'est pas ça, parfois, le pacte humoristique ? C'est que chacun fait avec ses affects, on est tous mélangés, on a tous de l'agressivité et aussi de la bienveillance, et finalement, tout ça se mélange peut-être dans les bonnes blagues, dans les bons sketchs.
Tout à fait, et c'est pour ça que je dis que l'humour est un art. Et comme tous les arts, c'est difficile. Et on est sur une... C'est comme un funambule qui est sur une ligne de crête très, très, très étroite. Il suffirait de pas grand-chose, d'une virgule en plus ou d'une intonation un peu différente pour qu'on bascule dans l'attaque ou qu'on soit...
C'est vrai.
Voilà. Donc, c'est véritablement un art. Et donc, un art, il y a des gens qui le comprennent parce qu'on peut aussi ne pas comprendre une vanne comme on peut ne pas comprendre un tableau. Et c'est très subjectif comme l'art.
Alors, on a envie de se dire aussi que c'est très civilisé, le rire, que peut-être c'est le propre de l'homme. Mais on apprend dans votre livre que pas du tout. Alors, à chaque fois qu'on cherche le propre de l'homme, on est démenti par le réel. Il y a toujours un oiseau altruiste, un singe qui rit. Et vous nous montrez à quel point les grands singes rient.
Oui, alors il y a une grande spécialiste là-dessus qui s'appelle Marina Davila-Ross, chercheuse de l'université de Portsmouth, qui s'est consacrée au rire des animaux. Et donc elle montre d'abord que le rire humain est un héritage du rire animal, donc c'est la même lignée évolutive. Donc en fait, notamment, on le voit dans les chatouilles. Le chatouille, c'est directement un héritage du rire animal. Les animaux, les grands singes se chatouillent. Ouais. Et la deuxième observation intéressante, je trouve, c'est qu'elle montre que souvent, quand les animaux rient, les grands singes notamment, les bonobos, les chimpanzés, ils le font dans le cadre de la bagarre, quand ils se bagarrent entre eux, quand ils se mordillent, quand ils font des culbutes, et systématiquement quand c'est un grand qui vient s'attaquer à un petit. Et le rire a une signification très claire. Le rire signale que c'est une parodie d'agression, que c'est un simulacre, que c'est, comme disent les gosses, pour de faux. Donc en fait, ça a un rôle d'apprentissage et de socialisation pour les singes, parce que c'est comme ça qu'ils apprennent à se défendre. Et de la même manière que nous, on rit quand on fait les jeux de société. Heureusement qu'on rit. Et on rit, parce qu'on rit, on apprend les règles de la stratégie, l'art de la défense et de la stratégie. Mais si on ne se marrait pas, ce serait hyper cruel au Monopoly de dire « Allez, vas-y, t'es tombé sur l'hôtel de la paix, vas-y, paye
vas-y,
si
va on en riait prison, pas, va en prison, t'as plus d'argent.
Va en prison, vas-y, reste-y. » Donc, s'il n'y avait pas le rire, le rire permet de neutraliser la charge d'animosité qu'il peut y avoir.
Et j'ai aussi une idée en vous écoutant, c'est que vous disiez au début de l'émission, le rire, c'est une façon de résister par rapport à la norme et à la loi, au conformisme. Mais c'est aussi une manière d'avoir un rapport heureux à la règle. Parce que finalement, quand on fait un jeu de société, la règle, on en a besoin. Quand on joue au foot aussi, ou au tennis, on a besoin d'une règle. Et dans le jeu, il y a quelque chose comme un rapport heureux à la règle, qui est peut-être l'apprentissage de la vie en société. Et peut-être que le rire nous permet d'avoir un rapport heureux à la règle.
Alors, un rapport heureux, qui peut être comme vous le décrivez, et ça peut être aussi le bonheur, ça peut être aussi de subvertir intelligemment une règle, tout en la maintenant. Donc de la rappeler en creux. Je pense par exemple à l'humour scatologique, qui est une manière de subvertir les interdits, mais tout en les maintenant. Parce qu'on va, en général, c'est euphémiser l'humour scatologique. C'est pas, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc le rapport à la règle, il est inscrit dans l'essence même du rire, puisque l'essence même du rire, c'est de la contourner.
Oh hi, I wanna take you on a little ride. I wanna make you feel so nice. I wanna make you feel appreciated when you're deep up in me, when you're deep up inside. I wanna show you just what I like. I wanna kiss you slow, wanna fuck you rough. I wanna eat you up, I wanna cook you lunch. I wanna love you, babe. You know where I wanna be. I only want one thing.
on. It feels so right when I'm acting so wrong. No small talk, the shit's too long. And you're breaking my back, you're so, so strong. And I want you so bad, like OMG. Turning off my phone to D&D. And a couple little hours is all I need. And it's still on, you can go and bring me.
C'était Lola Young, One Thing.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Olivia Gazalet, autrice du Paradoxe du Rire, sous-titré « Et si tout n'était pas toujours drôle ?» On le trouve en grand format aux éditions Segers, mais aussi en poche aux éditions Pocket. Et je voudrais maintenant qu'on boucle un peu le chemin qu'on a pris ensemble. Je rappelle qu'au début, vous aviez dit « Oui, le rire, c'est anticonformiste, c'est reprendre sa liberté. » Vous avez même évoqué les femmes qui, enfin, ont le droit de rire, alors qu'avant, il fallait qu'elles restent douces et discrètes et effacées. Heureusement, maintenant, elles prennent la parole, elles prennent le pouvoir, elles prennent la scène, et ça fait du bien. Mais le petit problème que j'ai quand je vous écoute, c'est que je me souviens de ma lecture de Bergson dans le livre Le Rire. Alors souvent, les élèves, et puis même les adultes, pensent que c'est un livre qui valorise le rire, un livre léger, mais pas du tout. C'est un livre dans lequel Bergson nous montre surtout que le rire a pour fonction le plus souvent de ramener dans l'ordre le déviant, de se moquer du différent. Et finalement, ce rire de rappel à l'ordre ne correspond pas du tout à ce qu'on a évoqué ensemble. C'est plutôt un rire conformiste, en fait.
Oui, c'est pour ça que le rire, c'est infini comme sujet de réflexion, parce que c'est effectivement à la fois la transgression de la norme et le rappel à la norme. Et ce que met très bien en évidence Bergson, c'est il dit que le rire est comme un geste social qui rappelle le déviant dans le droit chemin. C'est vrai qu'on rit, on rit de celui qui n'est pas, comme tout le monde en réalité.
Qui marche différemment dans la rue.
Qui marche différemment, voilà.
Qui ne se comporte pas comme les autres à un dîner. On rit du différent alors qu'on devrait peut-être l'admirer.
Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit que pour rire, il faut une certaine anesthésie du cœur. C'est-à-dire qu'effectivement, au moment où on se moque du différent, on est pas très sympathique. Donc il y a quelque chose il y a une pulsion mauvaise que le rire vient éveiller ou satisfaire et que Bergson met extrêmement bien en lumière et qui est illustré dans l'histoire par exemple la peine de charivari ou la peine de pilori. C'était des peines qui étaient très courantes, pas seulement au Moyen-Âge, on en trouve des pilori et des charivari jusqu'au 19e, et c'était des peines qui consistaient à, quand quelqu'un avait transgressé une norme, par exemple un mariage mal assorti ou quelque chose comme ça, la communauté villageoise venait se moquer de lui, jetait des trucs sur la maison, etc. Et donc, c'était par le rire qu'on venait dire « tu n'es pas conforme, reviens dans le droit chemin ».
On est loin du rire empathique que vous évoquiez au début.
Ben oui, c'est pour ça que le rire peut être à la fois antipathique et sympathique, offensif et défensif, et inclusif et exclusif, il est tout ça à la fois, et c'est pour ça que ça m'a mis tant de temps à écrire ce livre.
Et d'ailleurs, pourquoi vous avez écrit ce livre ? Comment vous est venue l'idée ? Quand on est écrivain, essayiste, philosophe, c'est toujours intéressant de savoir comment, à un moment, on se dit « tiens, je vais écrire là-dessus ».
Alors, je crois que ça fait très très longtemps que je m'intéresse à cette question, et à cette question de, on vous fait une petite vanne, et moi j'en ai subi plein, en tant que femme notamment,
et en tant que prof,
des vannes
aussi.
Sexistes, oh oui, mais en tant que femme, beaucoup, beaucoup, beaucoup de blagues sexistes, et à chaque fois j'avais envie de dire, je disais, c'est pas drôle, et l'autre me disait, et pourtant, tous les garçons se marraient, par exemple en classe, il y avait beaucoup de, moi je me faisais beaucoup moquer par les garçons.
Les élèves, vous voulez dire ?
Non, quand j'étais élève. Je vous dis que ça fait très 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 longtemps que je le vois. Et je pense que déjà, adolescente, ça m'intriguait déjà, ce truc de quand on reçoit une vanne qui est dégradante, dévalorisante, on répond « Oh ben c'est pas très drôle », et l'autre te dit « Ah mais t'as pas d'humour ». Et alors moi, ça m'énervait parce que j'avais l'impression que j'avais de l'humour. Et donc en fait, ce que je crois que j'ai écrit ce livre pour que les personnes à qui ça arrive, qui se sentent offensées par une vanne, puissent répondre « Ah non, désolé, c'est pas de l'humour ». C'est du sarcasme. Et donc, c'est toi qui n'as pas d'humour. Voilà. Et donc, j'aurais bien aimé, très souvent, ça m'aurait sorti d'embarras de pouvoir répondre ça, mais je n'avais pas les clés. Et donc, maintenant, je peux vraiment faire la distinction. Non, ce n'était pas de l'humour.
Pourtant, vous aviez dit que c'était subjectif tout à l'heure.
Ah non, vous m'avez mal compris.
Ah bon?
Non, j'ai dit que ce qui était subjectif, c'était drôle ou pas drôle.
Ah oui,
en revanche,
c'est vrai, pardon.
Humour ou sarcasme, c'est parfaitement objectif.
Ouais, dans la mesure où on comprend ce que ça vise et dans quel affect ça s'origine.
Bah
on a quand même vu qu'il pouvait y avoir une métamorphose de l'affect au cours de la blague, donc c'est pas si simple.
Non, c'est pas si simple. Il y a aussi un autre truc qui complique vraiment l'affaire, c'est le second degré, l'ironie. C'est que en fait, dans le second degré, vous allez par exemple imiter. Vous allez une blague sexiste, mais en fait, elle ne se moque pas des femmes, elle se moque du misogyne qui fait une blague sexiste. Donc, c'est du méta-dénigrement.
Ouais.
Donc, en fait, très souvent, c'est pas très facile de décoder si c'est dit au premier degré ou au deuxième degré. Donc, il y a énormément de complexité autour de la vanne.
Et d'ailleurs, vous avez aussi écrit le mythe de la virilité, et vous avez un des passages très intéressants sur les femmes qui ont enfin le droit d'être drôles.
Oui, ça m'a énormément intéressée, parce que en lisant notamment le Rire des femmes de Sabine Melchior-Bonnet, à laquelle il faut rendre hommage, et elle montre très bien que pendant très longtemps, le rire a été un privilège masculin, et qu'encore, il n'y a pas si longtemps, au début du XXe siècle, les femmes, c'était mal vu même d'assister à une comédie, et quand elles le faisaient, il fallait qu'elle soit tout en haut dans les balcons et qu'elle se cache derrière un éventail, parce qu'en fait, elle explique que le rire offense trois qualités qui sont essentialisées ou naturalisées comme féminines. La beauté, parce que l'hilarité, ça défigure les traits du visage, surtout quand on montre ses dents, qui à l'époque, en général, étaient gâtées. Deuxième attribut féminin que ça offense, c'est la bienséance. On l'a dit, il y a quelque chose d'organique, de sonore, c'est tout le contraire
de corporel,
donc c'est tout le contraire de la pudeur et de la discrétion attendue d'une femme. Et enfin, ça offense la vertu, parce que souvent, c'est moqueur. Donc en fait, la femme, telle qu'elle est idéalisée par des millénaires de construction des genres, la femme est censée être gentille, douce, pacifique et vertueuse. Donc la moquerie, c'est pas son rayon.
Elle n'est pas censée faire comme Blanche Gardin un sketch entier sur la sodomie.
Non, et où Florence Foresti qui fait un sketch entier sur la vulve, donc qui s'empare de sujets ultra crus, et donc ça, c'est vraiment pour le coup une révolution culturelle.
C'est bien la preuve que ceux qui disent on peut plus rien dire se trompent complètement. Parce qu'on peut pas imaginer il y a 30 ans une femme faire un sketch comme ça.
Mais bien évidemment, mais Jacqueline Maillan n'aurait jamais osé faire le 15e de ce que fait Blanche Gardin. Donc même si c'est pas nouveau, les femmes qui rient, elle rit pas de la même façon. Et notamment l'obscénité, c'est vraiment le tabou suprême pour une femme.
C'était.
Oui.
Voilà.
Enfin, ça le reste encore dans cette construction qui n'est pas encore déconstruite complètement. Mais oui, c'est un tabou suprême pour une femme.
Alors on va finir sur la vie, parce qu'on a vu qu'il y avait différents types de rire. Un rire qui est plein de vie. Vous écrivez dans votre livre au sujet du rire dionysiaque qu'il y a une régénération cosmique. J'adore cette expression. Ouais. Et puis on a vu aussi le rire de Bergson, le rire qui rappelle à l'ordre, le rire conformiste. On a vu le sarcasme. Moi, je voudrais qu'on termine sur la vie. J'ai quand même l'impression que le plus souvent, le rire, c'est la revanche de la vie en nous. C'est quelque chose qui se précipite, qui s'agite, qui est vivant. Ça me fait un peu penser à la phrase d'Héraclite sur le fleuve, qui n'est jamais deux fois pareil. On rit jamais deux fois de la même façon, finalement. Mais parlez-nous un peu de ce rire dionysiaque sur lequel vous écrivez des si belles pages.
Alors oui, c'est intéressant de voir que dans les grandes fêtes, notamment les Dionysies des champs, mais d'autres, les Thesmophories, toutes les grandes fêtes agricoles du monde grec, on se marrait énormément. Et le rire était ritualisé. Et il avait cette vertu de régénération cosmique parce que on l'assimilait aux forces de fécondité. Donc le rire était lié à la fécondité, à la résurrection, à la régénération. Notamment, ça intervient, pardon de faire ma prof, mais notamment à partir du rire de Déméter.
Vous avez bien raison de faire la prof.
dans le culte de Déméter, il y avait ce rire ritualisé, donc c'était oui. Et en fait, ça venait du fait que Déméter,
donc déesse de l'agriculture,
Déméter,
des
champs. Oui, bien sûr, la déesse de la fécondité, des champs, de la fertilité, de la terre. Elle était en fait, elle avait fait une espèce de grande dépression parce que sa fille Perséphone lui avait été enlevée, et donc elle ne mangeait plus, elle ne sortait plus, elle était en train de dépérir dans une caverne. Et puis sa nourrice Bobo a fait une espèce de danse lubrique, une espèce, pour la faire rire, elle a éclaté de rire, et à partir du moment où elle a éclaté de rire, tout à coup, Perséphone est revenue, et la régénération, le printemps est revenu, parce que oui, j'avais oublié de dire que la végétation s'était endormie, évidemment, ouais. Quand Déméter était endormie, il n'y avait plus de végétation, et tout à coup, régénération cosmique. Donc, les Grecs et les Romains attribuaient au rire ses vertus, et c'est pour ça aussi que le rire était ces fêtes étaient obligatoires. Parce qu'il y avait aussi une dimension de contrôle social, c'est-à-dire que il y avait dans ces grandes célébrations, il y avait des scènes de mascarade, de renversement des genres. Donc les hommes se déguisaient en femmes, les pauvres en riches, les riches en pauvres, etc. Et en fait, la vocation de la fête, c'était de se terminer. Parce que quand elle se terminait, c'était le retour à l'ordre, le retour après le chaos, le retour au cosmos organisé. Donc en fait, les dirigeants utilisaient le rire pour consolider le pouvoir, en fait.
Eh bien, Olivia Gazalet, merci beaucoup. On va garder toute cette histoire, mais on n'aime pas trop la fin. On préférait cette apologie de la fécondité plutôt que celle finale du rappel à l'ordre. Mais je vais essayer, pour vous remercier de nous avoir accompagnés ce matin de façon si agréable, de résumer la philosophie qui est de la vie qui est la vôtre. Je dirais une philosophie de la fécondité, une philosophie démétérienne, j'aurais envie de dire. Je vais rappeler cette philosophie à travers vos principaux ouvrages. Un livre sur l'amour, Je t'aime à la philo. Un livre sur la virilité, Le mythe de la virilité. Et maintenant, un livre sur le rire, sur l'humour. On voit bien, philosophie alchimiste, j'aurais envie de dire aussi, philosophie de la puissance. Et c'est ça aussi un prof, quelqu'un qui aime transformer les affects, qui aime prendre quelque chose et en faire quelque chose de meilleur. Je terminerai, je ne peux pas résister, Olivia Gazalet, philosophie de la régénération cosmique. On a entendu cela dans votre apologie du rire. Merci beaucoup. Je recommande votre livre aux éditions Pocket, Le paradoxe du rire. Merci beaucoup, Olivia Gazalet.
Merci, Charles Pépin.
Cette émission a été préparée excellemment, comme toujours, par Estelle Gap, Audrey Carme et Laura Dumez. À la programmation musicale, Valentine Chedebois. Elle a été réalisée par Antoine Larcher, avec à la technique, Guillaume Roux.